Alors, on a été plutôt judicieux dans le respect des temps, et donc, vu que c'est une conférence débat, j'ouvre le débat, bien sûr, surtout à l'attention de nos orateurs. Je pense qu'il y a un micro, hein. Ou sans micro, parce que la salle est petite. Ah non, il y a le micro. Qui c'est qui ouvre? Arriva, arriva, arriva. Allez-y, allez-y, allez-y. Ils doivent l'ouvrir. Ah non.
Évoquer l'évolution de l'Europe vers le fédéralisme. Et je reviens à la dialectique centralisation-décentralisation. Il m'apparaît que la décentralisation est relativement facile, mais que va-t-il se passer pour la centralisation? Vers qui? Vers quoi? Vers l'Union européenne? Ça me paraît assez compliqué pour la centralisation.
Allez-y, arrive.
C'est un processus effectivement assez compliqué, mais la centralisation se fait par le transfert de tâches aux autorités européennes qui déjà actuellement sont responsables de toute une série de mesures, de politiques. Ainsi, par exemple, l'agriculture est pratiquement entièrement transférée aux mains européennes. Vous avez la monnaie qui est transférée aux organes européens. Donc vous avez tout un ensemble de compétences qui vont être transférées. C'est un principe que l'on voit dans toutes les fédérations où vous avez à la base les compétences qui appartiennent aux États membres et qui, au fil du temps, sont transférées à l'État central.
D'autres questions?
Merci, je salue à mon tour la qualité et le brio des orateurs. Je souhaiterais poser à Monsieur le ministre une question quant aux conditions politiques qui ont permis cette évolution de l'estatut de Catalogne. Nous étions plutôt convaincus il y a 3 ans que ce parcours avait été très difficile. Il y avait des conditions politiques à Madrid qui étaient nettement contraires avec le gouvernement présidé par M. Aznar, qui aurait dû en principe avoir une prolongation toujours de la même couleur, ce qui ne fut pas le cas en 2004. Et également du côté interne de la Catalogne, il paraissait pas y avoir des conditions de très grande unité. Tous les partis avaient présenté leurs propres projets qui étaient nettement différents les uns des autres. Les élections en 2004 ont justement changé le tableau, mais aussi les conditions internes de la Catalogne ont changé. À partir du moment où le principal parti nationaliste, qui était l'interlocuteur sur le plan politique européen de la plupart des autonomistes et des régionalistes, qui était le parti Convergencia Unión de Jordi Pujol, a été, un peu à la surprise de tout le monde, renvoyé à l'opposition. Et une alliance politique nouvelle s'est créée sur le front de la gauche avec Esquerra Republicana et le Parti Socialiste. Donc il paraissait assez improbable au tout début de cette législature, malgré les déclarations que l'on avait entendues, qu'il y ait une possibilité réelle de trouver une large convergence à l'intérieur et ensuite d'atteindre le résultat au niveau national. Et donc, nous avons tous été surpris de la rapidité de ce processus. Et je vous demande quelle est la raison, même si nous savons qu'il y a eu par la suite, de la part de certaines composantes gouvernementales, un éloignement par rapport à la décision qui a été prise au sein du Parlement catalan. Deuxième petite question, est-ce que vous ne craignez pas un retour centraliste à travers le tribunal constitutionnel? Il y a eu un recours, si je m'abuse, de la part du Parti populaire. Recours d'empare pour essayer de stopper ce processus. Est-ce que vous ne craignez pas quelques retours de flamme de ce côté-là dans les mois ou dans les années à venir qui puissent écourter un peu et qui puissent limiter la qualité et l'envergure de ce statut qui, je pense, marque quand même une étape fondamentale dans l'évolution de nos autonomies régionales? Merci.
Merci. Votre question, c'est très difficile et très longue. L'Espagne, toute l'Espagne, il avait deux grands partis. La droite, le Parti populaire de M. Aznar, chaque fois plus droite, une fois extrême droite, et le Parti socialiste, la gauche. Si les partis, si un des deux partis n'a pas la majorité absolue du Parlement espagnol, toujours il faut, il a besoin de l'alliance avec le Parti nationaliste catalan. Le troisième, la quatrième force au Parlement espagnol sont forces nationalistes catalanes. La troisième force au Parlement espagnol, c'est Convergència i Unió, les nationalistes catalans de droite, et la quatrième force, c'est Esquerra Républicaine, et c'est mon parti, c'est le catalanisme, le nationalisme catalan de gauche. Ça veut dire que les partis espagnols, on a la majorité au Parlement espagnol, on a une alliance avec d'une de deux forces catalanes. Aujourd'hui, le Parti socialiste n'a pas la majorité. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il avait son alliance avec Esquerra Républicana. Aujourd'hui, il ne connaît pas. Demain, peut-être, Convergència i Unió. À la Catalogne, il y avait cinq forces politiques. Deux forces importantes, la Convergència i Unió et le Parti socialiste. C'est impossible qu'une ou autre ait la majorité absolue. C'est impossible. Les partis socialistes ont dit qu'il est aussi nationaliste, aussi catalaniste. Son nom est Parti Socialiste de la Catalogne, fédéré avec le Parti Socialiste au Biarritz espagnol, mais son nom c'est Parti Socialiste de la Catalogne. Esquerra Republicana c'est la troisième force. La quatrième force c'est le Parti Populaire de M. Aznar, c'est minoritaire à la Catalogne, et je crois qu'il sera toujours minoritaire à la Catalogne. Toujours a été minoritaire à la Catalogne. Et la cinquième force est d'ex-communiste écologiste. Le gouvernement catalan de les dernières trois années a été une coalition des partis socialistes, d'Esquerra Républicana et écologistes socialistes. Nous on appelle le gouvernement catalaniste et de gauche. Catalaniste et de gauche. Je crois que la situation politique à la Catalogne, c'est une situation beaucoup stable, hein, avec beaucoup d'étabilité, et pas une situation en change. L'Estatut, une des questions qu'on a fait à la Catalogne et à l'Espagne les dernières années, c'est la souveraineté. Où est la souveraineté? Nous avons d'élections au Parlement de la Catalogne et nous avons d'élections au Parlement de l'Espagne. La souveraineté est du peuple, mais le peuple, où va son souveraineté? À le Parlement de la Catalogne ou au Parlement de l'Espagne? Un Parlement est supérieur souverain que l'autre? Nous parlons de la souveraineté compartie. Nous parlons de la souveraineté compartie. Ça veut dire que l'Estatut a été approuvé premier par le Parlement de la Catalogne, puis par le Parlement espagnol, et puis un référendum, parce que la souveraineté finale est du peuple. Et à le Parlement catalan, l'Estatut a le 90% de vote des députés. Seulement le vote du Parti Populaire, qui est le 10% du vote du Parlement, n'a voté le Parlement. Au Congrès et Sénat espagnol, la différence est menor, parce que le Parti Populaire est plus important. Je crois que le Tribunal constitutionnel ne dira rien. Je crois. Le Tribunal constitutionnel, à l'Espagne, c'est un tribunal politique. On vote au Parlement. Et il y a la majorité et la minorité parlementaire. Et tous les membres du Tribunal constitutionnel, on peut continuer à être membre du Tribunal constitutionnel. Ça veut dire qu'on fait des Ça que dit un parti, hein, les partis. Il n'y avait aucun problème avec le statut légal. Les noms des nations aussi. La constitution espagnole, on dit qu'Espagne avait des régions et des nationalités. Mais on dit quelle nation, on dit pas quelle nationalité. La constitution espagnole, on dit l'Espagne avait des régions et des nationalités. Mais tu ne sais pas. Aussi, on dit qu'il avait de plusieurs langues à l'Espagne que l'espagnol, mais on dit quelle autre langue. Mais je crois que c'est un statut, finalement, un référendum qui n'a pas de problème constitutionnel. Je crois qu'il n'y aura pas de problème constitutionnel. Il n'y aura aucun problème d'application, parce que l'Estatut català est plus avancé que la Constitution espagnole. Et aujourd'hui, nous avons à l'Espagne, les textes constitutionnels sont la Constitution espagnole et la Constitution de sa région. Et aujourd'hui, nous avons l'Estatut català plus avancé que la Constitution de toute l'Espagne. Et je crois qu'il y aura des questions problématiques pour sa application. Et ici, en cette question, sí que le tribunal constitutionnel il aura de dire quelque chose. Habituellement, toujours en faveur de l'État. Habituellement, toujours en faveur de l'État. Mais aussi, je crois, et nous croyons, que la réalité est supérieure. Je vous dis avant, par un exemple, Andorra. Andorra, c'est un État. Un petit État, mais c'est un État indépendant. La langue officielle d'Andorra, c'est le català. Andorra n'a pas d'université. Les Andorrans en vont à l'université de la Catalogne. Andorra, il y a problème d'installation sportive. Beaucoup de clubs sportifs d'Andorra ont fait la compétition à la Catalogne. J'ai fait, le budget du gouvernement d'Andorra est inférieur que les budgets du gouvernement de la Catalogne. Nous ne sommes pas État, mais nous avons plus de budget, nous avons des universités, nous avons des installations sportives. Andorra est indépendant, mais avec budget inférieur, n'a pas d'installation sportive. J'ai, comme premier ministre, j'ai signé avec le président d'Andorra d'accord. Espagne m'a dit, tu ne peux pas signer. Le président d'Andorra m'a dit, l'Espagne ne laisse pas signer. Et j'ai dit, si je ne signe pas, tu n'auras pas installation sportive, tu n'auras pas université, tu n'auras pas budget. Ça qui veut faire, et le président d'Andorra m'a dit, signer. Nous n'avons signé. Je ne peux pas signer un accord avec les maires de Perpignan, avec les maires de l'Alguero. Mais je l'ai signé. Parce que les maires de Perpignan ont vu le budget que... À l'Alguero, l'école maternelle est en catalan. Mais le budget pour les payer, c'est le gouvernement de la Catalogne. Et les professeurs de l'école maternelle sont fonctionnaires de le gouvernement de la Catalogne. Nous avons 30 000 professeurs en toute la Catalogne et 10 à l'Alguero. Par nous, 10 professeurs à l'Alguero, par rien. Par le maire de l'Alguero, c'est très important. Je n'ai signé aucun accord avec le gouvernement de l'Italie et le gouvernement de la Sardine. Je l'ai signé directement avec le maire de l'Alguero. La réalité, c'est supérieur. Le budget, l'intérêt commun, la volonté, c'est supérieur à la légalité. Et il n'y a aucun ministre espagnol d'extérieur qu'on va dénoncer moi au tribunal constitutionnel pour faire ça.
Si vous me permettez de reprendre la parole, j'ai répondu trop brièvement à madame. Parce qu'en fait, la répartition des compétences est une question très complexe et tout à fait fondamentale dans une fédération, puisqu'il s'agit toujours de répartir les compétences entre les différents niveaux. Alors actuellement, C'est très compliqué en Europe parce que c'est le Conseil européen qui doit refaire les traités chaque fois, à l'unanimité, mais quand même, ils arrivent à transférer certaines compétences. Lorsque l'Europe sera enfin dotée de sa constitution, alors ce sera une constitution de type fédéral, et dans les constitutions de type fédéral, les compétences sont régies selon diverses possibilités. Vous avez le plus souvent des listes de compétences. Alors, vous avez des compétences exclusives de l'État central qui s'occupe des affaires étrangères, de la monnaie, de l'armée, alors de certaines compétences. Vous avez les compétences exclusives des États membres, souvent la santé, l'éducation, ce genre de choses, la police municipale, les routes, voilà, les ports fluviaux, j'en passe et des meilleurs, vous avez toutes sortes de possibilités, et vous avez souvent des compétences concurrentes, des compétences qui sont utilisées à la fois par l'État central et les États membres. C'est une possibilité des listes. Ou alors une autre grande possibilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle les compétences résiduelles. C'est-à-dire que vous dites, dans une formule, les États membres disposent de toutes les compétences qui n'ont pas été transférées à l'État central. Alors là aussi, ou alors vous dites, c'est l'État central qui dispose de toutes les compétences qui n'ont pas été données aux États ou aux communautés membres. Donc là, d'une fédération à l'autre, ça varie, je ne sais pas du tout ce qui est prévu pour l'Europe, mais une fois de plus, vous pouvez avoir de grandes variétés dans la pratique, parce que en fait, vous pouvez avoir, comme en Autriche justement, les Länder sont compétents pour tout ce qui n'a pas été transféré aux autres, mais comme tout a été transféré aux autres, il ne reste plus rien du tout. Donc ça c'est une formule qui finalement dans la réalité est le contraire de ce qui était écrit. En Allemagne, vous avez aussi une jolie formule parce que vous avez beaucoup de compétences concurrentes, mais vous avez une disposition qui dit que les compétences concurrentes, dans la Constitution j'entends, les compétences concurrentes peuvent être transférées à l'État central si la nécessité d'une réglementation uniforme se fait sentir pour maintenir un niveau équivalent de prestations à travers tout le pays. C'est l'article 72. Et là, le gouvernement et les autorités centrales ont fini par trouver qu'il y avait toujours, absolument toujours, une nécessité d'une réglementation, c'était indispensable. Et la Cour constitutionnelle a approuvé tout ça, et désormais, dans les Länder allemands, ils n'ont presque plus rien qui leur appartient, parce que toutes les compétences concurrentes qui devaient être attribuées aux deux sont en fait transférées à l'État central. Vous avez une situation plus rigolote encore, c'est aux États-Unis. Parce que dans la Constitution américaine de 1787, vous avez une disposition qui dit, ça s'appelle la clause du commerce, la fameuse Commerce Clause, et la clause du commerce qui dit le Congrès, c'est-à-dire le gouvernement central, le Congrès est compétent pour le commerce avec les tribus indiennes. 1787, n'est-ce pas ? La Constitution américaine est toujours la même, et est compétent pour le commerce avec les tribus indiennes et pour le commerce entre les États. Et alors, au fil du temps, il s'est trouvé que le Congrès a trouvé que tout était commercial. Et donc, en fait, ils ont ramassé une quantité de compétences sous l'angle du commerce, de la clause de commerce, et toujours avec la bénédiction de la Cour suprême américaine. Et voilà, ça c'est une des transferts de compétences, on dit, jurisprudentielles, par voie d'approbation de la Cour constitutionnelle, qui a toujours justifié ce genre de choses. Et c'est tout récemment qu'il y a eu quelques rares décisions de la Cour suprême, et notamment qui a cassé une loi qui, en fait, interdisait aux écoliers d'entrer à l'école avec... doivent légiférer là-dessus, et le Congrès a pris cette compétence en disant que ça relevait du commerce. Et alors là, la Cour constitutionnelle, enfin la Cour suprême américaine a dit non, ça va quand même trop loin, donc ça va pas, ça relève pas du commerce. Donc ils ont cassé cette décision. Donc vous voyez, vous avez des listes où vous avez des transferts qui se font petit à petit, où vous avez l'interprétation jurisprudentielle, tout peut arriver. En Suisse, le système est spécial puisqu'on a la démocratie directe Et en fait, le transfert d'une compétence demande une modification de la Constitution, et une modification de la Constitution doit être approuvée à la fois par une majorité des électeurs et une majorité des cantons. Donc toutes les compétences qui ont été transférées des cantons à la Confédération ont toujours été, donc ces transferts ont été acceptés par les cantons qui ont donné leur approbation à une perte de compétences, toujours sous le régime de l'efficacité, parce qu'effectivement les cantons sont tellement petits que certaines questions ne peuvent pas être résolues. Vous prenez la protection de l'environnement, la pollution n'a pas de frontières, on ne peut pas avoir des régimes différents d'un canton à l'autre. Donc, question complexe à réaliser, mais enfin, la Constitution européenne devra trouver un moyen de faire ces transferts de compétences, et là encore, une fois que c'est écrit, la réalité peut encore se révéler différente dans son application. Voilà. Je vous en prie.
D'autres interventions ? Bordeaux.
Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu en Suisse avec la globalisation de l'économie et l'ouverture du marché, avec le principe du fédéralisme et la défense de l'économie locale. Pourquoi je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur ce argument.
Allez, écoutez, alors là, vous êtes dans le pur aspect dialectique, parce que en fait, c'est vraiment une tension entre ces deux aspects, parce que finalement, la Suisse a pendant longtemps connu des frontières économiques qui ont été jugées absurdes, et donc les cantons, le gouvernement central, les associations de consommateurs ont tout fait pour essayer de créer ce qu'on appelle le marché intérieur, un marché unique. Une loi a récemment été adoptée, il n'y a pas longtemps que tout ça a été adopté, et effectivement, dans ce contexte, il y a beaucoup plus de concurrence, et l'économie locale souffre parfois d'un manque de soutien. Et alors là, on est exactement dans ce contexte d'opposition entre globalisation et localisation. Et effectivement, il y avait encore hier à la télévision des gens de Genève, des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs genevois ont dit qu'il était impossible d'augmenter les salaires alors que les entrepreneurs font des chiffres d'affaires faramineux. Mais ils ont expliqué que non, parce qu'à Genève, justement, il y avait maintenant des entreprises d'autres cantons qui pouvaient construire à Genève, et donc ça posait problème. Et là, effectivement, entre la défense des spécificités, par exemple, en Suisse, pendant très longtemps, si vous étiez coiffeur, vous ne pouviez pas passer d'un canton à l'autre, parce que vous aviez un brevet d'un canton, vous ne pouviez pas aller dans le canton d'à côté. C'est effectivement un peu absurde. Vous aviez les cafetiers. Si vous aviez un brevet de cafetier dans un canton, vous ne pouviez pas aller ouvrir un café dans un autre canton. Et alors, toutes ces réglementations ont été jugées très très absurdes et on a essayé de lutter là contre, mais certaines personnes se plaignent en disant que finalement c'est dommage parce que si vous avez dans un canton des exigences très grandes pour les cafetiers, alors maintenant vous avez des gens qui peuvent venir et puis qui n'ont pas d'expérience. Alors là, on verra. Et voilà, c'est un exemple typique où finalement, au bout du compte, on espère que c'est le consommateur qui sera gagnant. Et vous avez le même principe maintenant avec les chiens dangereux. Les chiens dangereux, c'est un grand thème, parce qu'il y a eu plusieurs drames. Moi, j'aime pas les chiens, donc je trouve que c'est épouvantable. Et alors, maintenant, c'est laissé au canton, parce que le Conseil fédéral n'a pas voulu centraliser cette compétence. Donc, d'un canton à l'autre, vous avez des différences, ce qui pourrait donner des situations tout à fait absurdes. Si vous vous baladez avec votre chien à travers la Suisse, donc vous devez mettre une muselière. Dans le canton d'à côté, vous enlevez la muselière. Dans le canton d'à côté, vous enlevez carrément votre chien parce qu'il n'a pas le droit d'y aller, puis vous remettez la muselière. C'est évidemment un peu absurde.
Monsieur le Président, un moment. C'est ce qui se passe dans le parc du Grand Paradis.
un des débats très grands sur notre statut, sur le statut de Catalogne, c'est quand le ministre espagnol d'économie a dit que l'Estatut de la Catalogne va contre l'unité de marché espagnol. Et nous avons dit la unité de marché espagnol. Nous croyons qu'il avait déjà les marchés unis européens et la unité monétaire européenne. Qu'est-ce que c'est l'unité de marché espagnole? Il y avait l'unité de marché européenne et aussi il y avait l'économie locale et l'économie régionale et l'économie estatale. Par exemple, Abertis, c'est une entreprise catalane. Et aujourd'hui, le débat à Abertis n'est pas un débat espagnol, c'est un débat italien. Ça veut dire que l'unité de marché, c'est européenne, mais ce n'est pas espagnol.
D'autres questions? Guido Corniolo.
Je vous dis de madame, monsieur le ministre, tout à fait une question. Je crois qu'en Espagne, dans ce moment, l'État espagnol, il y a trois positions d'autonomie très différentes, disons. C'est Catalogne, c'est Pays Basque et Galicia. Galicia, bien, encore très différent, respect. Mais je crois que Pays Basque et Catalogne, quand même, sont les deux moteurs de. Alors, vous pensez que la situation basque, il peut créer. Qui? Ils n'ont jamais demandé clairement. Ils parlent toujours d'une nation, mais ils parlent d'un État basque, pas d'une nation. Et donc là aussi, sur les mots, c'est très différent. Mais avant tout, indépendance totale après la discussion. Encore qu'ils ont beaucoup plus d'autonomie au point de vue, par exemple, de tous les impôts, etc., qui sont directement gérés par la région basque, par la nation basque, si nous pouvons le dire. Nation basque. Alors vous croyez que la situation basque, il peut créer, vu qu'elle est tellement différente, ben de, c'est-à-dire je crois que même l'État central et même Zapatero, il a des gros problèmes à résoudre, vu que la situation de la lutte armée, de l'État et tout ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est beaucoup différent, parce que aussi les pays catalans, ils ont eu des problèmes, terra iure, etc., mais je crois que c'est une chose plus folklorique que tout à fait ce que ce n'est pas géré directement avec la situation d'une identité de peuple comme le Pays Basque. C'est clair que les Catalans ils ont choisi un autre chemin, très clairement, ce chemin. Mais vous pensez que le problème basque, il peut porter des gros problèmes même à l'affirmation vers une nation catalane avec la N majuscule avec toutes les compétences et peut-être le 90% des impôts comme nous avons. En plus, je crois que les impôts, ce sont des choses très importantes, mais là, c'est une question que s'il y a une identité nationale, c'est clair qu'on peut gérer très bien les impôts. Mais si nous sommes en train de perdre toute l'identité, vu que nous avons débattu l'année passée à Barcelone sur le problème de l'immigration des Catalans, c'est un gros problème. Et comme nous pouvons intégrer. Je crois qu'aujourd'hui aussi nous avons dans ce moment une commission pour voir quel genre d'intégration. Mais quel genre d'intégration si nous avons déjà perdu notre identité, point d'interrogation. Alors, nous sommes là, c'est le problème. Mais le problème fondamental, c'est si le Pays Basque il peut donner vraiment des gros problèmes sur ce chemin, dans le sens si on trouvera une solution et si on trouve la solution pour le Pays Basque, je crois qu'il va se dérouler vraiment toute une grande possibilité, même pour la Galice, même pour la définition totale de l'autonomie catalane.
Je crois que aujourd'hui, à l'Espagne, il y avait, comme vous avez dit, trois autonomies différenciables. Un premier état, c'est l'autonomie basque et catalane. Par exemple, sommes les uniques autonomies avec police propre. En différence, un ancien président catalan a dit que l'autonomie et la langue ne font rien si tu n'as pas police et budget. Si tu as police et budget, tu as gouvernement. Si tu n'as pas police, tu n'as pas budget, tu n'as gouvernement. La police, seulement la Catalogne et le Pays Basque. Il y avait un second état d'autonomie que je crois que c'est la Galice et l'Andalousie aussi. L'Andalousie c'est une région qui va devenir nation, je crois, mais pas une nation historique, mais aussi une nation sociale aujourd'hui, pas une nation linguistique, mais aussi une nation sociale et des autres régions. le professeur a dit le fédéralisme asymétrique. Monsieur Aznar, on parlait de café pour tout, café pour tout. Et nous avons dit dans la Catalogne, va bien, café pour tout, mais io voglio espresso, tio con latte, tu con latte, tu largo. Café pour tout, mais noi vogliamo le café que noi vogliamo. Le problème, la question de la lotte armée des Pays-Bas, c'est très compliqué. Je crois que c'est compliqué par deux choses. Je crois que le Pays Basque sera aujourd'hui un pays plus riche économiquement sans lutte armée, mais je crois aussi que sans lutte armée, il n'avait pas la compétence fiscale, le Pays Basque. Il y avait les deux choses. La réalité armée du Pays Basque, de fait déjà 40-50 années, c'est hypocritique. L'État espagnol actuer à les Pays Basques avec hypocrisie. Aucune fois, l'État espagnol a promotionné le terrorisme. À Messi Aznar, je crois que le terrorisme lui va bien. Lui va bien. Il y avait certaines étatures d'État comme vivre dans le terrorisme. Il y avait des entreprises. Il avait des structures étatales qui vivent de le terrorisme. J'ai parlé avec une personne de la haute judicature de l'État qui m'a dit que croit que 10 000 personnes vivent du terrorisme dans l'État. Ça veut dire policiers spécialisés. Jutge spécialisé, policia de escorta, personal, 10 000. I m'ho dit, en ce moment, c'est très perillon, c'est 10 000 que les terroristes. Parce que les terroristes, on veut être déjà terroristes. Mais c'est 10 000, on veut continuer professionnellement, c'est un antiterroriste. Depuis l'attentat de Madrid, d'Al-Qaïda, est en arrière à faire. Le terrorisme, c'est le terror. Et pas possible de faire de plus terror que cet attentat de Madrid. C'est pas possible. Aujourd'hui, l'unique chemin des Pays Basques, c'est la paix, la séparation de l'État. L'État fait déjà plus d'une année qu'il ne fait aucune attente réelle. Cette personne de l'autre judicature m'a dit, j'ai peur de les bonnes. Le mal n'existe pas déjà, j'ai peur de les bonnes. Je crois que le problème basque n'existera. Je crois que le problème basque n'existe pas déjà, vraiment. L'État perdra une excuse. L'excuse d'État, c'est le problème basque. Perdra l'excuse. Mais nous sommes une nation. Le Pays Basque, c'est notre nation. Et demi, il avait d'autres nations. Et nous sommes une nation parce que nous sommes différents. Ni meilleurs, mais nous sommes différents. Le Pays Basque est une autre nation parce que différent. Histoire, langue, culture, économie, gastronomie, réalité, volonté. Ça veut dire que je crois que c'est indépendant la solution des questions basques pour notre cas. C'est indépendant. Mais c'est vraiment que l'État perdra l'excuse. Et il y aura de chercher une autre excuse. Il y aura de chercher. Et c'est possible que c'est plus facile de chercher à la Catalogne que les Pays Basques l'autre excuse. Parce que la Catalogne est plus importante la démographie, nous sommes 7 millions, les Pays Basques, ils n'arrivent pas à 1 million. Nous pouvons faire internationalement des choses que les Pays Basques ne peuvent pas. J'expliquais ce matin, nous voulons sélection sportive. Nous voulons à la Catalogne sélection sportive. Il y avait des sports que nous sommes importants avec dans le monde. Il y avait des sports qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de sélection et nous sommes importants, comme par exemple le motocyclisme. Mais nous avons un sport de compétition d'équipe qui nous sommes importants. Par exemple, en hockey de patinage, la sélection espagnole est la championne du monde. Tous sont catalans. Tous. Et nous avons dit, pas de problème, la Catalogne. Nous avons allé à la Fédération Internationale, une réunion à Fresno, et nous avons dit, la Fédération Catalane doit être reconnue, les gouvernements catalans donnent son support, et à Fresno, il avait l'approbation de la reconnaissance de la Fédération Catalane comme Fédération Internationale, comme Fédération Indépendante. Et ça veut dire que nous avons allé à la Mundial B, parce qu'il y a une nouvelle fédération, et nous avons gagné le Mondial B. Exagérément gagné. J'ai dit, pas plus de 12-0, pas plus de 15-0, c'est exagéré. À la réunion à Roma, le président de la fédération italienne a pressionné vraiment à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre pour retirer l'indépendance de la Fédération catalane. Il l'a vaincu. Aujourd'hui, la Fédération catalane n'est pas reconnue. Merci à le président de la Fédération italienne. Mais nous retournerons. Nous retournerons. Parce que nous aurons une sélection sportive. Nous aurons. Nous avons les droits, comme les Cousses. Nous avons les droits comme les Gales, nous avons les droits comme tout l'Irlande, nous avons les droits comme les îles Féro, nous avons les droits. Comme que nous avons les droits, nous retournerons et nous vaincrons. Et les Pays Basques, comme il est plus petit, il avait plus de difficultés pour faire ça. Nous avons plus de budget, nous avons plus démographie, plus club, plus sportiste, et c'est plus facile de faire ça. Et nous commençons l'année prochaine de faire un championnat de football des nations sans état, les tournées de 6 nations. Les Pays Basques, nous, et 4 nations sans état européennes plus, nous ferons les tournées de football de 6 états, 7 nations, mais nous avons une très bonne sélection nationale de football, plus importante que l'Irlande du Nord. Je crois que c'est plus important la Catalogne football que l'Irlande du Nord.
C'est un peu difficile pour nous. François, c'est bien. Et après, je pense qu'il faudra terminer parce que ça fait à peu près 2 heures que nous sommes là.
Bien, je tiens à féliciter ceux qui ont décidé de tenir cette rencontre, parce que finalement, depuis longtemps, on parle de réforme dans notre conseil régional, et voilà l'occasion intelligente d'avoir deux partenaires importants présents dans cette table ronde. D'une part, la Suisse, qui était toujours le point de repère, on l'a rappelé avant, Émile Chanou a toujours pensé à la Suisse. On l'a écrit dans notre conseil, il y a de petits peuples, et là, quand on parle de petits peuples, on pensait à la Suisse, mais la Catalogne. Alors, peut-être pas tout le monde sait à connaissance que Jordi Pujol, il est venu s'inspirer, d'une part, aux luttes politiques du mouvement autonomiste Valdôtain, de l'Union Valdôtaine, mais d'un point de vue institutionnel, au statut spécial de la Vallée d'Aoste. Il a dit, il a écrit plusieurs fois, et on a eu des liens aussi avec l'Izquierda Républicaine, pas beaucoup avec le Parti Socialiste en Valle d'Aoste, mais on a vu qu'ils ont travaillé dans cette direction. Voilà, alors on peut dire que
Et les élèves ont dépassé largement les enseignants. Et maintenant, et c'est l'occasion pour faire travailler aussi, encore une fois, notre conseil régional, les commissions qui s'occupent de ce problème, parce que je crois qu'il y a là du travail à faire pour se confronter, des idées, bien sûr, chacun avec son histoire, avec sa réalité, ce n'est pas qu'on peut clairement seulement regarder ce qu'ils font les autres, mais il y a la possibilité d'une confrontation, de la confrontation pour ressortir celle qui peut être la solution et les modifications du statut qu'on veut apporter pour notre région. Merci.
Alors moi je pense qu'on peut, avec une rapide intervention de ma part, conclure les travaux. Je voudrais d'abord remercier la Fondation Chanou pour cette rencontre et les deux orateurs qui ont présenté un cadre fort intéressant. Il n'y a pas de doute que le modèle valdôtain sera toujours spécifique, vu la taille, la démographie, le territoire, la position géographique, mais ça ne signifie pas négliger ni les alliances ni les comparaisons. Il faut être capable de recopier s'il y a de bons modèles. Le fédéralisme, c'est un peu une logique de bricolage. Je prends un peu les différentes choses qui m'intéressent un peu partout et j'arrive à créer mon modèle. Il me paraît que nous avons au moins trois problèmes. Le premier problème, c'est le chapitre européen. Et là aussi, il y a parfois dans les comparaisons des ambiguïtés, parce que les mots changent selon les différents pays ou les différentes communautés. Le mot région est tout à fait différent dans les différents pays de l'Europe. Fédéralisme aussi, subsidiarité, c'est la même chose. Mais aussi le mot nation change. Si tu parles de nation, un français, un espagnol, ou un italien plutôt qu'un grec, ou un écossais, un valdôtain, un catalan, ça change beaucoup. Le chapitre européen est facile et difficile dans le même temps. Facile parce que moi je pense qu'il faut avoir pleine conscience de l'existence quand même d'une série de réseaux. Moi je pense au travail qui a été accompli par REG-LEG, c'est-à-dire les régions à pouvoir législatif, qui ont beaucoup travaillé sur le traité constitutionnel, sans avoir les résultats, mais quand même il y a eu toute une série d'initiatives tout à fait importantes. Quand on discute, et on aura la possibilité, je pense, de le faire dans les prochaines semaines, peut-être déjà demain, quand on parle aujourd'hui de la garantie internationale, moi j'étais il y a quelques jours à Trente et on discutait de l'accord de Gasperi-Gruber. Et bien sûr, aujourd'hui la garantie internationale qu'on demandait dans l'après-guerre a changé de logique, parce qu'aujourd'hui au moins il y a un cadre important à travers même les actuels traités. Il faut dire, par exemple, les régions REG-LEG ont demandé de pouvoir recourir directement à la Cour de justice, parce que ce serait important. Je pense à la coopération transfrontalière, qui peut réellement se transformer dans une logique euro-régionale pour démanteler les vieux États-nations. C'était la République du Mont-Blanc songée par Émile Chanou. J'ajouterai, entre autres, qu'en regardant l'Europe, il y a des difficultés. Je pense à l'emploi de plus en plus important, soit de la part de Bruxelles, soit de la part des respectives capitales, de la notion d'aide d'État et de la concurrence, parce que ça entre directement dans les compétences législatives des régions. Le chapitre italien, il faut attendre et comprendre, parce que la révision de la réforme costituzionale est un chantier ouvert. Donc là, il faudra comprendre les différentes attitudes. Pour ce qui est, par contre, a été évoqué par François, la question du chapitre valdôtain, moi j'aurai la possibilité de présenter avec le professeur Onida et le docteur Barbara Randazzo une ébauche d'études qui est une contribution pour le travail du Conseil de la Vallée sur les différents problèmes liés à la révision et l'adaptation du statut spécial pour notre région. Évidemment, d'un côté, il faudra choisir la méthode. Est-ce qu'on fait de nouveau une commission spéciale? Est-ce qu'on envisage une espèce de convention? La convention, justement, a été la méthode du traité constitutionnel, entre autres. Là, c'est difficile à dire. Certainement, dans l'étude qu'on présentera, il y a les différents aspects. D'un côté, le nouveau statut. De l'autre côté, nous avons aujourd'hui la possibilité de réglementer à travers une loi statutaire un ensemble de matières importantes, la forme du gouvernement, les aspects d'organisation interne. Et en plus, il faut dire que nous avons à reprendre le discours sur les normes d'attuazione, c'est-à-dire les dispositions d'application du statut. Et il faut tenir compte, justement, comme je disais, de l'Union européenne. Nous aurons au printemps la première loi communautaire régionale. Là, c'est une tentative d'assumer nos propres responsabilités face au pouvoir et aux compétences que nous avons, avec une loi communautaire régionale. Et nous sommes en train de nous organiser avec les autres régions à statut spécial pour participer au processus de naissance de la législation communautaire, parce qu'il y a eu une loi de l'État italien qui nous permet de participer quand il y a une discussion sur des matières de notre compétence, la délégation italienne du Conseil européen jusqu'à l'ensemble de celle qu'on appelle dans le dialecte européen la comitologie. Et certes, ce n'est pas facile, ce sont des choix tout à fait difficiles. L'ensemble des réformes, de la réforme sera un chapitre très très important. Et entre-temps, il faut voir, parce que nous aurons la possibilité d'en discuter avec les parlementaires, avec les autres présidents des régions plus spéciales. Nous avons rencontré, comme je disais au commencement, le ministre de l'économie, et là, peut-être qu'il y aura, en raisonnant autour du budget, la possibilité d'accélérer certaines matières plutôt que d'obtenir de nouvelles compétences, de nouvelles délégations dans des matières que nous ne touchons pas pour le moment. Mais bien sûr, ce qui est important, c'est justement la comparaison. Comprendre qu'on n'est pas seul avec ce problème. Les différentes régions en Europe se posent dans ce temps le même problème, que soit la crise de la politique, l'instabilité de la politique, la fracture entre les constitutions matérielles et la réalité amministrative et politique de tous les jours. Donc ce sont des arguments très compliqués, mais je pense que cet après-midi s'est démontré utile pour raisonner de politique et des institutions. Merci beaucoup.
Seulement de nouveau pour remercier M. le ministre et M. le professeur qui ont bien voulu participer à cette conférence, ce débat, et vous tous que vous avez participé avec attention. Merci. Bonsoir.